Nutri Radio présente le Nutri Talk Gala. Pour la troisième année consécutive, le Nutri Talk Gala revient avec un moment unique mêlant expertise santé et divertissement. Cette année, un plateau d'experts exceptionnels pour mieux comprendre les hormones, le métabolisme et la longévité. Avec notamment Fabrice Denis, professeur, chercheur associé au CNRS, expert en IA et médecine de longévité. Stéphane Résimon, médecin spécialisé en médecine intégrative, expert en hormonologie et micronutrition. Le Nutri Talk Gala, samedi 13 juin, à l'Élysée Biarritz, à Paris. Programme complet, intervenants et renseignements sur nutritalkgala.fr. Cette émission vous est présentée par Nutrilogics, laboratoire engagé auprès des professionnels de santé. Nutrilogics offre des solutions naturelles, innovantes et durables pour que chacun vive en pleine santé et en équilibre dans son environnement.
Santé 360, Christian Boyer sur Nutri Radio.
Bonjour Christian.
Salut Fabrice.
Christian,
bien.
Ça va et toi t'as entendu ton jingle là, ton générique?
Oui.
Ah ça y est, on a tout réglé. On a réglé les problèmes de retour. Christian Boyer, on est ravi de vous avoir chaque jeudi sur Nutri Radio pour cette émission Santé 360. On remercie notre partenaire laboratoire Nutrilogique spécialisé dans les compléments alimentaires et toutes leurs synergies sont pensées avec justement une équipe de scientifiques, une équipe d'experts, de médecins pour vous proposer des produits efficaces basés sur la science. Merci donc de leur soutien. C'est important d'avoir des marques comme ça engagées qui comprennent eh bien, que plus le grand public et plus les professionnels de santé auront des infos utiles, mieux ils pourront appliquer des méthodes complémentaires et apporter aussi à leur traitement conventionnel des soutiens. Ça, c'est le cas de le dire aujourd'hui pour cette émission. Parce qu'on va parler des parasites avec vous, mon cher Christian. Et alors, je vous disais hors antenne, ces parasites, ça fait beaucoup parler. Puisque déjà, selon certaines personnes, on a tous des parasites. C'est très contesté parce que ça fait un petit peu peur. Donc c'est des invités un petit peu invisibles qui vivent aux dépens de quelqu'un. Hein. C'est aux dépens de l'autre. On est d'accord, Christian?
Oui. Alors effectivement, comme tu viens de dire, les parasites, c'est un sujet qui est maintenant qui revient un peu sur la table, qui est effectivement d'actualité. Et je pense que comme tout sujet, il y a un juste milieu des fois à trouver. Des fois, il y a des personnes qui adorent et qui sont fans, on va dire, des parasites. Et c'est vrai qu'on peut en voir un peu chez tout le monde ou penser que absolument tout le monde est concerné. Et puis, il y a ceux qui vont être dans l'autre extrême qui est de dire « Oh, c'est encore ces histoires de parasites. Qu'est-ce qu'on nous embête avec ça? Faut arrêter. Il n'y a que les gens qui voyagent qui en ont. » Donc, mais non. La réalité, c'est qu'il y a un juste milieu entre les deux et c'est une problématique qui touche quand même un certain nombre de personnes, notamment des gens qui ont des troubles digestifs.
Vous avez arrêté ça comme ça? Très bien. Je pense que vous étiez pour me faire une heure de trucs. Par exemple, je vous dis, on a un intervenant sur Nutri Radio là, qui est naturopathe qui nous a dit oui, 85% des Français ont des parasites et d'autres encore disent quasiment 100%. Qu'est-ce que vous en pensez, vous?
Alors déjà, il faudrait savoir qu'est-ce qu'on entend par parasite, parce que alors, il y en a effectivement, il y en a qu'on gère quasiment tout le monde a en ce moment même sur sa peau. C'est un parasite qu'on appelle le Demodex. C'est partie un peu de la, je sais pas de bêtises, une sorte de petit acarien en fait qui est sur la peau des personnes. D'ailleurs, on ne faut pas forcément chercher à s'en débarrasser. Hein. C'est vraiment un petit acarien qu'on retrouve fréquemment au niveau de la peau et qui est là et qui est présent. Peut-être même en ce moment même, je ne les vois pas. Ils sont en train de se balader sur ma peau.
J'en vois plein sur ma peau, moi.
Ah oui. Ah ben si, Farid, si tu vois des trucs se balader sur ta peau, pose-toi des questions.
Oui, c'est vrai, c'est pas faux.
Voilà, parce qu'ils sont vraiment minuscules, hein. on peut les voir si on passe une grosse loupe, on passe au microscope. Donc ces petits parasites, des sortes d'acarins microscopiques qui vivent souvent dans les follicules pileux, donc sur la surface de la peau et qui posent pas problème, hein. Ils sont là, il faut pas se prendre la tête, ils sont pas pathogènes, ils peuvent des fois poser des problèmes, hein. Il y a des gens qui peuvent avoir des problèmes de peau dermatos et notamment des pores qui se bougent, des petits boutons d'infection comme ça qui se mettent à apparaître, qui peuvent être dus au Demodex. Mais voilà, on va dire que c'est pas un parasite dangereux. Il fait partie de notre peau. Il est là, il est bien. Il se balade sans qu'on le voit.
Donc ça veut dire que finalement, effectivement, si on prend tous les parasites, y compris ceux qui ne nous nuisent pas et ceux qui sont sur la peau, peut-être qu'on peut se dire qu'il y a effectivement beaucoup de gens qui en ont. Après, on va s'attarder sur le fait. Vous avez dit que tout à l'heure que c'était peut-être redevenu une mode, mais si on parle de ceux qui sont des nuisances, on entend là, bah tiens, si je perds pas du poids, c'est à cause des parasites, tiens, j'ai des troubles intestinaux, c'est à cause des parasites, est-ce que on peut aller juste, je sais pas, du syndrome du côlon de l'intestin irritable, est-ce que le SIBO, est-ce que tout cela, le parasite, c'est à l'origine de ce genre de pathologie, par exemple, ou ça peut les justifier ou les expliquer?
Alors ça, c'est vrai, tout à fait. Et d'ailleurs, pour sortir un chiffre, parce que là, il y a eu des publications qui ont été faites par rapport aux parasites et d'une manière générale, peu importe les pathologies que ça peut ou non déclencher derrière, mais on est plus sur des chiffres. Alors, 85%, ça ne représente pas clairement la réalité, et pas 80% des gens qui sont parasités. Alors, si on prend les gens qui ont des troubles digestifs, peut-être qu'on arrive à des chiffres qui se rapprochent un peu plus de ces chiffres-là, mais si on prend tout le monde dans la population générale, il y a eu des études qui ont montré que, en gros, il y a on va dire 30 à 45% des personnes qui ont été ou sont porteurs ou seront porteurs à un moment donné de leur vie d'un parasite. Mais encore une fois, c'est-à-dire que c'est à un moment donné, on peut partir en voyage à l'étranger, attraper un parasite et ensuite, il est éliminé. Il y a des gens qui, en mangeant du poisson cru, par exemple, se retrouvent à avoir quelques anisakis qui vont être éliminés naturellement et on n'entendra plus parler, il n'y aura pas de problème. Donc, il faut faire attention toutes ces choses-là. Donc, après, c'est quand même un chiffre important de dire qu'entre 30 et 45% de la population, on va dire, mondiale, qui a été ou est porteur actuellement d'un parasite à un moment donné. Donc, là, on est sur des chiffres qui sont un petit peu plus réels. Après, comme je dis, c'est pas parce qu'on a un parasite à un moment donné, parce qu'on a fait un voyage, qu'on va l'avoir toute sa vie. On peut l'avoir sur une période courte, avoir des symptômes gastro-intestinaux, des diarrhées par exemple, et ensuite, quelques semaines après, il est éliminé, ça se régule, mais ça, c'est pas toujours le cas. Et pour revenir sur ta première question qui était, est-ce qu'il y a des liens avec le syndrome intestin irritable, avec le SIBO, avec des problématiques digestives? Alors, pour tout ce qui est parasite digestif, donc on a un certain nombre de dans les parasites on classe ça en protozoaires et en helminthes. Alors les helminthes c'est les vers, hein. On connaît bien les helminthes comme les ouxures par exemple, les ascaris que ont souvent les enfants, les ouxures notamment. On a aussi donc l'anisakis, si on avait parlé, c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans tout ce qui est poisson cru, notamment ceux qui sont fans de sushi, c'est un risque d'avoir des anisakis, surtout si le poisson n'a pas été congelé au moins pendant 48 heures, ça a un temps suffisant pour essayer de détruire les larves. Donc normalement, tous les sushis qu'on mange, c'est obligatoire dans la loi, que le poisson frais soit congelé pendant 48 heures pour ensuite pouvoir l'utiliser en tant que sushi, notamment c'est pour essayer d'éliminer ces parasites, ces anisakis. On a aussi le ténia dans les helminthes, hein, qui est un ver dont on parle aussi. D'ailleurs, il y a des dérives avec ce ténia, puisqu'il y a des personnes qui sont prêtes à tout pour perdre du poids et qui achètent. Apparemment, on peut trouver ça sur Internet, donc je ne sais pas où, je ne connais pas les sites et je ne les donnerai pas. Et je déconseille tout à fait. Mais il y a des personnes qui achètent à d'autres des ténia pour pouvoir les ingérer et derrière perdre du poids. Donc, bien sûr, ça, il ne faut surtout pas faire ça, ça
représente
un danger. Hein.
C'est incroyable.
Ah oui, c'est pas une blague. Hein.
Ah bon, d'accord, je ne savais pas. Ok, très bien.
On voit des histoires comme ça. Il y a des gens qui ne veulent pas des ténia. Des fois, il y a des gens qui n'ont rien demandé. Ils ont chopé un ténia, ils se mettent à perdre du poids, ils mangent pour trois, ils ne comprennent pas, ils continuent à maigrir. Et c'est à cause de ce parasite-là qui peut d'ailleurs atteindre des tailles de dizaines de centimètres, voire jusqu'à un mètre dans des cas particuliers. Mais du coup, il y a des gens qui effectivement vont acheter des ténia sur Internet pour pouvoir perdre du poids. Ils l'avalent et puis c'est bien, je peux manger tout ce que je veux. N'importe quoi, je vais perdre du poids. Donc, c'est des trucs qui existent. Hein. Enfin bon, bon, tout ça pour dire qu'il y a dans
que,
les pains.
J'entends dire que vous mangez tout n'importe quoi, vous grossissez jamais.
Bah, j'ai un ténia, oui.
Non, mais c'est fou cette histoire, parce que, tiens, plus sérieusement, est-ce que ce ténia, il peut avoir des effets néfastes sur notre santé? Parce que s'il mange ce qu'on lui apporte, il va aussi peut-être se nourrir de nutriments, des bonnes vitamines, enfin, peut-être qu'il peut tout nous prendre.
Bien sûr. Et dans les problèmes que peuvent provoquer les parasites, que ça soit du coup, comme j'ai dit, des helminthes comme le ténia ou des protozoaires. Les protozoaires, c'est d'autres types de parasites comme le blastocystis, le gardia et l'entamoeba par exemple. Et donc tous ces parasites, que ce soit des vers ou des protozoaires, ils peuvent induire des problématiques. Et effectivement, ça peut être des problématiques, par exemple comme le ténia, ils vont se nourrir de ce qu'on mange. On risque aussi d'avoir des carences dans certains nutriments, parce qu'ils vont les utiliser à leurs dépens. Et puis en plus, ces parasites, surtout les parasites digestifs, mais en fait que ce soit des vers, donc les helminthes ou des protozoaires, ils ont tendance aussi à agresser la muqueuse intestinale. Alors pour les vers, c'est un petit peu plus mécanique en fait, cette agression, mais les protozoaires aussi, il y en a certains qui vont bien se loger dans, par exemple au niveau de l'intestin grêle, il y en a qui sont plutôt des parasites du côlon et d'autres qui vont plutôt dans l'intestin grêle, et par exemple le gardia, qui est un protozoaire, est capable d'aller bien se fixer dans la muqueuse de l'intestin grêle. Et quand on chope donc un gardia, on a ce qu'on appelle la gardiose. Ça donne des diarrhées qui peuvent être assez sévères. On peut avoir du mucus dans les selles, de la stéatorrhée, c'est-à-dire des crêtes dans les selles, des syndromes de malabsorption. Donc, il y a des symptômes, surtout dans les phases, on va dire, aiguës de parasiteuses qui peuvent être assez costauds, donc au niveau digestif. Et puis, ça peut engendrer aussi des problèmes extra-digestifs, des problèmes de peau notamment. T'as des gens qui ont des parasitoses chroniques, ils ont des problèmes de peau, de psoriasis ou des éruptions, des choses un peu particulières. Ça peut provoquer aussi de l'asthme. Il y a des gens qui ont de l'asthme chronique et malheureusement, des fois, on ne s'est pas rendu compte que c'était dû à la présence de parasites. Donc, ces gens-là sont traités avec des corticoïdes, des fois inhalés, des choses comme ça pour des asthmes chroniques qui sont en fait uniquement dus à leurs parasites. Et lorsqu'ils sont déparasités, ils n'ont plus d'asthme. Donc, des troubles d'autres systèmes que le système digestif peuvent effectivement être provoqués par des parasites. Il y a aussi des pelades, des problèmes comme ça, des gens qui perdent des cheveux, des problèmes de pelades qui peuvent être dus à certains parasites, comme je dis, problèmes de sorte de pseudo-allergie, d'asthme, problèmes de peau, des problèmes de fatigue chronique également, de perte de poids aussi dans certains cas. Donc effectivement, ça peut être responsable d'un certain nombre de problèmes. Et on peut passer à côté, puisque finalement, ils peuvent être, surtout pour les protozoaires, alors les helminthes, c'est des vers. Alors, si vous avez des ténia, vous risquez des fois de voir des anneaux qui se détachent et les retrouver dans les toilettes. On peut retrouver des petits vers dans les selles, comme les ascaris ou autres. Mais par exemple, les protozoaires, ils sont microscopiques, on ne les voit pas. Donc, on peut être parasité sans jamais voir quelque chose dans les selles.
Ou alors, si, il faut quand on va aux toilettes, prendre des jumelles.
C'est ça. Et pour ceux qu'on peut voir, parce que en plus, il y en a certains, comme j'ai dit, les protozoaires, ils sont microscopiques, on ne pourra pas les voir même avec une loupe. En plus, ce qui fait le problème du diagnostic aussi des fois, c'est que non seulement ils sont petits. Si vous avez un verre entier qui sort quand vous allez aux toilettes, ça, vous allez le voir, mais c'est pas ce qui arrive le plus souvent. On a des fois ça dans les gens qui vont être traités justement, qui vont prendre les antiparasitaires et qui voient des choses sortir à ce moment-là, quand c'est des vers notamment. Mais sinon, on ne les voit pas forcément. C'est ça le problème en fait. Le problème est toujours sur des choses qu'on ne voit pas. Les choses qu'on voit, ouais, vous coupez le doigt, vous saignez, ça vous le voyez tout de suite. Par contre, voir des parasites dans les selles, c'est pas systématique. C'est même plutôt assez rare.
On marque une pause et on se retrouve dans un instant pour la suite. Je ne savais pas que j'allais me passionner autant pour cette histoire de parasites. On marque une pause et on se retrouve donc dans un instant sur Nutri Radio. Restez avec nous.
Vous êtes passionné de santé, professionnel ou simplement acteur de votre bien-être? Découvrez Nutrilogix. Notre vision, être une référence en santé naturelle et innovante. Notre mission, offrir à chacun des solutions accessibles et durables pour vivre en pleine santé et en équilibre avec son environnement. Parce que la santé de demain se construit aujourd'hui. Nutrilogix, révolutionnons la santé.
« Santé 360, Christian Boyer sur Nutri Radio.
Ah là là, les parasites, si vous venez d'arriver, je vous conseille de réécouter le podcast à l'issue de cette émission, il sera disponible tout de suite parce qu'on parle des parasites et là, franchement, on est tous en train de se dire, est-ce que potentiellement je vais découvrir dans mes selles un jour un asticot ? L'image du verre, c'est alien l'histoire. Bon, pardon, par contre, comment on fait pour diagnostiquer la présence de parasites ? Est-ce qu'il faut faire des tests régulièrement ? Est-ce que... Quand on change, qu'est-ce qu'il faut faire pour le savoir ?
Alors, déjà, en fait, il y a. C'est sûr que, bon, on va pas tous, là, demain, courir au premier laboratoire pour faire des tests.
Si.
Pourquoi pas ? Voyons voir si on en a ou si on n'en a pas. Mais effectivement, il y a un certain nombre d'éléments qui peuvent faire déclencher, on va dire, une recherche de parasitose. Et déjà, bon, des personnes, comme j'ai dit, pour des parasites digestifs, parce qu'il y a des parasites aussi capables d'aller dans d'autres tissus. Hein. On a des parasites, bon, ça, des trucs particuliers, comme la douve du foie, par exemple, qui peut aller jusqu'au foie. On a des parasites qui peuvent même arriver au niveau du, jusque dans le cerveau. On peut retrouver dans l'œil. Bon, ça, c'est des choses particulières. On va dire, là, voilà, les parasites courants, de ceux que j'ai cités normalement, ils restent surtout au niveau digestif. Et donc, dans le cadre du diagnostic, c'est déjà est-ce que les personnes présentent des symptômes digestifs ? Est-ce qu'elles sont allées, par exemple, il n'y a pas longtemps à l'étranger, elles ont eu des symptômes comme des diarrhées, parce que souvent on pense, on se dit, ah, j'ai attrapé une infection bactérienne, mais des fois c'est pas bactérien, ça peut être si on boit de l'eau qui était un petit peu souillée, parce qu'on allait dans certains pays où l'hygiène est, on va dire, un petit peu plus douteuse, on peut avoir chopé une amibe, on peut avoir chopé, pourquoi pas aussi une giardiose ou quelque chose qui va nous donner des symptômes notamment. Donc, si on est allé à l'étranger, qu'on a eu des diarrhées, des problèmes digestifs, etc., ben, ça peut être bactérien comme ça peut être parasitaire. Donc là, ce sont des choses quand même, surtout s'il y a des troubles qui perdurent ensuite, qui peuvent déclencher une recherche derrière de parasitose. Des gens, comme j'ai dit, qui ont des problèmes digestifs, évidemment, sur ces parasites digestifs peuvent provoquer des problèmes digestifs. Donc, tout problème digestif sur lequel on n'arrive pas à trouver la raison, ça peut aussi être intéressant de regarder s'il n'y a pas des parasites. Des problèmes, comme j'ai dit, au niveau de la peau, des problèmes dermatos, des problèmes au niveau de pelade ou de perte de cheveux, des problèmes d'asthme, des problèmes de fatigue chronique associés à des troubles digestifs et notamment les gens qui ont des syndromes de l'intestin irritable ou qui ont développé aussi des SIBO. Donc un SIBO, on rappellera ce que c'est une pullulation bactérienne de l'intestin grêle. Il y a des liens avec, alors pas tous les parasites, mais il y en a un qui est bien identifié, qui s'appelle le Giardia. Le Giardia peut faire déclencher un SIBO secondaire. Et donc, toute personne qui aura eu une giardiose est plus à risque d'avoir un SIBO derrière. Donc, je pense que sur ce genre aussi de problématiques digestives, le syndrome de l'intestin irritable d'une manière générale et le SIBO, il faut s'intéresser à rechercher s'il n'y a pas aussi une parasitose. Parce que des fois, on découvre le SIBO, on voit là du coup le problème bactérien, mais des fois, ce n'est pas le seul problème qui se cache en fait. Donc, il y a un certain nombre de personnes qui ont un SIBO et chez lesquelles on retrouve aussi des parasites, soit des protozoaires, soit des éléments, soit parfois les deux. On a des analyses étonnantes souvent aussi avec des collègues qui font des analyses, qui regardent un petit peu et qui disent voilà, regarde-moi là ce patient là, il a un SIBO, regarde, il a trois éléments différents, il a deux protozoaires différents. Des fois on voit des combos comme ça, c'est assez impressionnant. Et donc du coup pour les analyses, lorsqu'on veut en faire, il y a différents types d'analyses. Alors, les moins fiables, ça restera quand même l'écoproculture et les analyses plus dites microscopiques. Donc, on va regarder au microscope, est-ce qu'on voit des éléments parasitaires, est-ce qu'on voit notamment des kystes, ce genre de choses. Alors là, il y a un gros souci de fiabilité, c'est opérateur dépendant, parce que des fois c'est difficile à repérer ces formes parasitaires, ça peut être notamment pour les protozoaires très petits, et il y a la problématique aussi souvent que l'excrétion notamment de certains kystes de parasites n'est pas systématique, c'est-à-dire c'est pour ça d'ailleurs qu'on dit qu'il faudrait faire sur 3 selles, voire même plus, on peut faire des analyses sur 2 selles et ne rien voir, et c'est la troisième qui va être positive. Mais les autres, c'est pas parce que les autres étaient négatives avant. Donc déjà, des fois, il y a des erreurs dans les analyses qui sont faites de copro et d'analyse microscopique qu'on fait sur une seule cellule. Donc ça, c'est pas bien, c'est pas suffisant. On fait un minimum sur 3 cellules. Mais il y a une problématique d'identification. Lorsque c'est de la microscopie, on est beaucoup plus fiable lorsqu'on passe, par exemple, sur des méthodes dites de PCR, donc d'amplification de l'ADN. Donc, on va amplifier l'ADN du coup de ces parasites. Et là, on recherche, est-ce qu'on détecte l'ADN ? C'est un peu comme dans les scènes de crime. Si on trouve le criminel directement dans la maison, c'est pratique. Mais des fois, il n'y est plus. Ça ne veut pas dire qu'il n'était pas là à un moment donné. Donc, du coup, on recherche l'ADN. Là, on fait pareil. On va chercher l'ADN de ces parasites-là dans les cellules. On fait des PCR, notamment des PCR multiplex. Et bon, ça, c'est relativement fiable pour les protozoaires, les PCR multiplex, mais ça l'est beaucoup moins pour les helminthes, pour les vers. Donc, on a quand même clairement des problèmes pour avoir des tests qui seraient très performants, hautement fiables, notamment pour détecter les helminthes, ce qui fait que ça pose la problématique, parce que du moment que le test est négatif, on va dire aux gens qui n'ont pas le problème. Mais c'est bien là finalement où est le problème, c'est que même avec un test négatif on pourrait quand même avoir un parasite.
Non mais on ne s'en sort plus, c'est compliqué. On fait des tests, c'est vrai que c'est quand même incroyable cette histoire de... Donc il faut 3 cellules minimum.
Quand, ouais, ça c'est surtout valable quand on fait les tests, il y a une coproculture qui est faite avec des milieux d'enrichissement, des fois une analyse microscopique, donc là c'est valable pour ces genres de tests-là. Après pour la PCR notamment, ou les analyses métagénomiques aussi qu'on appelle les NGS, donc Next Generation Sequencing, où on fait du shotgun notamment, là une seule cellule suffit. Donc déjà c'est l'avantage, une seule cellule suffit, et même si on ne voit pas d'éléments parasitaires, des kystes directement, ou même des éléments parasitaires physiques, c'est-à-dire des comme dans la coproculture, bon, si on prend une cellule qu'on voit des anneaux de ténia, on sait qu'il y en a un. Et là du coup l'avantage c'est que on cherche l'ADN, on cherche des traces de la présence, donc c'est plus fiable.
Très bien, vous savez, une seule cellule suffit, ça pourrait être le nom d'un film.
Sacré film,
une seule cellule suffit. On va se retrouver, on avait prévu de faire cette émission, mais j'allais dire dans son intégralité tout de suite, mais on va se retrouver la semaine prochaine, mon cher Christian. Vous allez aborder avec nous maintenant, une fois que vous nous avez bien alerté et surtout bien appris des choses, merci pour cette transmission, vous nous allez donner des conseils pour éviter d'attraper des parasites, et on va voir aussi les traitements, les approches naturelles peut-être, est-ce que on peut, il y a un soutien à avoir apporté en phytothérapie, par la complémentation, par je ne sais quoi encore, on en parlera. Si vous voulez bien la semaine prochaine, ça vous va. Et puis si vous allez me dire, oui, mais ça va pas si vite, c'est pas grave. On passera dessus et on enchaînera avec un sujet, ça vous va ?
Avec plaisir.
Bien. Bon, bah écoutez, mesdames, messieurs, émission vraiment à réécouter en podcast. Et puis n'oubliez pas surtout, si vous trouvez ça intéressant, de ne pas garder ça pour vous. Partagez-le, commentez. Ça va nous aider. Et puis voilà, on est vraiment dans une logique de diffusion d'informations la plus large possible. Je pense que ces sujets concernent tout le monde. Et vous d'abord. Et puis peut-être quelqu'un a besoin de cette information. Quelqu'un a besoin. Parce que n'oubliez pas, parfois une seule cellule suffit. Merci mon cher Christian et rendez-vous la semaine prochaine. Cette émission elle est dispo en podcast. Tout de suite sur Nutri Radio dans la partie médias et podcast. Je ne savais pas s'il y avait le temps de parler ou pas sans le générique.
Santé 360, Christian Boyer sur Nutri Radio.